en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Deux remarques préliminaires. D'abord, ce ne sera pas jusqu'à présent, mais jusqu'à 1989, ce qui d'ailleurs était indiqué, je crois, dans l'intitulé. Et deuxièmement, une remarque plus plaisante, je craignais à un certain moment qu'il n'y ait que des Polonais dans la salle et que donc cette conférence relève de ce qui s'appelle « prêcher les convertis ». Mais heureusement, tel n'est pas le cas et je remercie toutes les personnes qui, bravant les froids sibériens, paraît-il, du moins, selon les gens qui n'ont jamais fréquenté les froids sibériens réels, bravant les froids sibériens donc, ont bien voulu venir m'écouter. Merci beaucoup. La Pologne sort de la Deuxième Guerre mondiale en vainqueur vaincu. Après avoir contribué à la victoire de l'alliance anti-nazie sur tous les fronts et pendant toute la durée des combats, elle entre dans l'après-guerre, satellisée par l'Union soviétique, qui lui impose des nouvelles frontières et un gouvernement communiste. Il se maintiendra jusqu'à 1989. Mais en rester à ce constat et traiter les 45 ans du pouvoir communiste comme un bloc noir et uniforme, c'est se condamner à ne rien comprendre, ni à l'histoire politique de la Pologne de ce temps, ni plus spécialement à sa vie intellectuelle et culturelle. Car celle-ci était si intense qu'il est loisible de dire d'entrée en jeu qu'entre la reconquête de l'indépendance en 1918 et la fin du XXe siècle, y compris la Pologne dite populaire, qui sera l'objet essentiel de ce que j'aurais à dire, la culture polonaise a vécu un âge d'or et affirmé sa présence dans le monde comme jamais auparavant. On assiste donc à un contraste saisissant et qui demande explication entre d'un côté les conditions politiques, économiques et sociales marquées successivement par les effets de la Première Guerre mondiale, la guerre contre les bolcheviks et d'autres conflits armés, la crise de 1929, les régimes de plus en plus dictatoriaux des années 30, les horreurs de la Seconde Guerre et de l'occupation nazie, les fardeaux du pouvoir communiste, d'abord totalitaire puis autoritaire, et de l'autre côté, la vie de l'esprit, avec une étonnante efflorescence de la pensée, des arts et des lettres. Elle commence, cette efflorescence, pendant les 20 années de la Pologne indépendante, qui ont vu la mise en place d'un système scolaire des 5 universités d'État et des divers établissements culturels et qui furent marqués par la liberté laissée à la littérature et aux arts et par l'ouverture sur l'Occident de l'enseignement supérieur et de l'édition. Tout cela même sous un régime autoritaire de plus en plus tenté par l'imitation du totalitarisme italien. C'est dans ce climat que se sont formées les deux générations qui auront joué un rôle déterminant après la Seconde Guerre mondiale. L'une, née à la charnière du XIXe et du XXe siècle, arrive à l'âge adulte entre les deux guerres. L'autre, née après la reconquête de l'indépendance, arrive à l'âge adulte peu avant ou pendant l'occupation allemande. Elles ont formé à leur tour deux autres générations actives pendant la période communiste. Celle des années 30, qu'on retrouve en 1956, une date qui reviendra ici à plusieurs reprises, et celle de l'immédiat après-guerre, entrée sur la scène publique en 1968. La génération des années 60, active dans Solidarność pendant les dernières années du pouvoir communiste, a été formée en majorité par les deux précédentes. La domination communiste sur la Pologne a traversé plusieurs périodes. Celle d'abord de la conquête du pouvoir au cours d'une guerre civile de 1945 à 1948. Celle ensuite où un régime totalitaire impose par la terreur la soviétisation générale, atténuée par la mort de Staline et ses effets, elle a été interrompue en octobre 1956 par un mouvement des masses avec une forte participation de la jeunesse inaugurée par la révolte des ouvriers de Poznań écrasés dans le sang. Le pouvoir communiste entra alors dans sa période autoritaire, ponctuée par la révolte étudiante de 1968 et les révoltes ouvrières de 1970 et 1976. Cette dernière a débouché sur la constitution d'une dissidence, des associations informelles avec en tête les comités de défense des ouvriers, de l'édition hors censure, de l'université volante et d'autres manifestations de la culture indépendante. En 1980, l'explosion de Solidarność a signé le passage de la dissidence à l'opposition démocratique. Solidarność sera poussée dans la clandestinité un an plus tard par l'instauration d'un état de siège. Mais ces coups de force étaient en fait, sans qu'on puisse l'imaginer à l'époque, et aucun de nous ne l'a imaginé à l'époque, les premiers actes de la décomposition de l'autoritarisme communiste qui sera pacifiquement liquidé en 1989. Même pendant sa période totalitaire, le pouvoir communiste n'a jamais réussi à acquérir une maîtrise complète de la société polonaise et des institutions culturelles. Les campagnes n'ont été que très partiellement et brièvement collectivisées. Et dans les villes, un secteur privé s'est maintenu malgré toutes les chicanes dont il faisait l'objet. Plus important pour notre propos, l'Église a gardé son indépendance, s'agissant de l'exercice du culte, de la formation des prêtres, de la nomination à des postes dans son appareil. L'Église, c'était aussi l'Université catholique de Lublin, KUL, terme que je vais utiliser dorénavant, quelques maisons d'édition, quelques revues, un hebdomadaire, Tygodnik Powszechny, petit par les tirages, limité toujours par les pouvoirs, mais grand par son influence, et une revue, Znak, publiée par la même équipe. La KUL dispensait un enseignement différent de celui des universités d'État, la théologie, la philosophie thomiste. Même l'histoire et la littérature y étaient traitées autrement. Une organisation créée par les services de sécurité soviétiques appelée PAX et dirigée par d'anciens fascistes polonais, fascistes au sens propre du terme, ils se réclamaient eux-mêmes, du fascisme, avait pour mission de diviser les milieux catholiques, d'en attirer une partie dans la collaboration avec les régimes et d'exercer ce faisant une pression sur la hiérarchie ecclésiale. Sa politique était détestable. Mais elle a sauvé de la prison nombre de personnes et leur a permis de survivre. Tandis que sa maison d'édition, qui avait un certain nombre de privilèges, publiait les auteurs catholiques ainsi que les pères de l'Église et les traductions des langues occidentales, y compris des auteurs tels que... c'est un trou de mémoire en ce moment, excusez-moi. Mais elle a publié quasiment tout Gilson, par exemple. Voilà. C'était pas non négligeable, pardon.
Maritain Mounier
non plus. Ça, c'était des auteurs qui étaient complètement, justement, hors leur horizon. Ils ont été publiés, mais plus tard. Maritain était publié déjà avant la guerre, d'ailleurs, en Pologne. En 1953, les primats des Polonais étaient internés. Tygodnik Powszechny a été transféré à Pax et Znak a été fermé. Trois ans plus tard, donc en 1956, les primats ont retrouvé la liberté et les autres décisions furent révoquées. Dans la vie politique et sociale, l'armée et la police, la justice, la direction des médias et la gestion de l'économie, le pouvoir communiste a opéré une rupture radicale en plaçant ses affidés à tous les postes de responsabilité. Il en allait autrement dans la culture. Les directeurs des musées nommés avant la guerre sont restés à leur poste, tout comme la majorité des enseignants du secondaire et du supérieur, des directeurs et metteurs en scène des théâtres, des chefs d'orchestre. Il y avait donc une continuité assurée par des personnes, malgré les pertes terribles causées par l'occupation allemande. Cette continuité a été rendue possible par l'existence pendant l'occupation de l'État clandestin polonais, dont on ne dira jamais assez les mérites. Une dépendance du gouvernement en exil à Londres, qui finançait entre autres des établissements clandestins d'enseignement et de culture, et accordait des bourses à des écrivains ou en achetait les œuvres pour les publier après la guerre. Elle a été rendue possible en outre par les retours de l'émigration en Occident et la déportation en Union soviétique. Aussi, les générations qui la prévenue entrer dans l'université ou dans le secondaire y trouvaient-elles des professeurs formés encore avant la guerre. Obligés de composer avec le nouveau pouvoir, ils n'en gardaient pas moins une indépendance d'esprit, variable selon les cas, mais souvent manifeste. Pendant la période stalinienne, des purges ont affecté toutes les institutions culturelles. Cette parenthèse a été refermée dès 1956. Une autre parenthèse a été refermée à la même date, celle de l'isolement de la Pologne de l'Occident. Il a été étanche pendant les années de l'occupation. Après la fin de la guerre, d'assez nombreux scientifiques, chercheurs en sciences humaines et sociales, artistes, écrivains, furent envoyés surtout en France en qualité de boursiers du gouvernement polonais. Cependant que les livres et les revues occidentaux sont revenus dans les bibliothèques universitaires. Les rideaux de fer est tombé réellement en 1948, pour commencer à être soulevé à partir de 1955. Pendant les trois décennies de pouvoir communiste qui ont suivi, les degrés d'ouverture de la Pologne sur l'Occident variaient selon les conjonctures internes et les fluctuations de la guerre froide, mais elle n'a jamais plus été isolée. Avec le temps, la tendance était plutôt à une intensification des échanges culturels, qu'il s'agisse des boursiers, des gouvernements occidentaux ou des fondations américaines, des traductions, de la musique, du cinéma, des expositions d'art. Certes, la censure avait toujours son mot à dire et c'était un mot très lourd. Mais dans un pays qui, comme les blocs soviétiques tout entier, souffrait d'un manque de devises, les contraintes financières étaient tout aussi importantes. On ne pouvait pas traduire certains ouvrages quand on demandait les droits d'auteur qui, pour nous, étaient prohibitifs. La censure qui contrôlait tout, tout ce qui visait les publics, s'acharnait surtout sur les productions des maisons d'édition de l'émigration, et plus spécialement sur les livres de l'Institut littéraire, si à Maison Lafitte, dont les auteurs phares étaient Witold Gombrowicz et Czesław Miłosz, et sur sa revue mensuelle Kultura, publiée entre 1947 et 2000, 637 numéros sont parus pendant cette époque. C'est d'ailleurs un record mondial d'une revue émigrée à la fois de la durée, du nombre et des activités annexes. Tant les livres que les revues entraînent en Pologne, en petite quantité, moyennant divers subterfuges, contrebande et tout ce qu'on veut, et ils étaient portés à la connaissance d'un public plus large par la radio Europe Libre, dont les émissions n'étaient pas brouillées à partir de 1956. Avant, elle était brouillée très fortement. Cette date est aussi celle du début d'une période où les pouvoirs, absorbés par des difficultés internes, a relâché sa vigilance concernant les publications des émigrés. Cela n'a pas duré longtemps. Dès les années 1960, les personnes en relation avec l'Institut littéraire étaient poursuivies et condamnées à la prison. Mais à partir du milieu de la décennie suivante, donc des années 1970, le nombre d'auteurs vivants en Pologne qui publiaient sous leur nom les articles dans Kultura et les livres dans les éditions de l'Institut littéraire augmentait constamment, cependant que les éditions clandestines réimprimaient les publications de l'Institut. Toujours à partir de 1956, les pouvoirs s'est résigné à n'y plus dicter aux compositeurs la musique qu'ils devaient écrire, de programmer les répertoires des concerts, de régenter les arts plastiques et les théâtres. Mais le marxisme-léninisme est resté la doctrine officielle du Parti communiste jusqu'à son dernier souffle. Après 1956, les gardiens de l'orthodoxie furent obligés toutefois, fût-ce à leur corps défendant, de permettre que s'expriment aussi les représentants de la philosophie condamnée il y a peu à disparaître en tant que bourgeoise et que la sociologie fasse son retour parmi les disciplines reconnues. Qui plus est, ils furent obligés d'assister à l'apparition, à l'intérieur même du marxisme, des tentatives de plus en plus radicales de la révision des dogmes et de tolérer dans les sciences humaines et sociales les différentes tendances venues tout droit de l'Occident, depuis l'iconologie dans l'histoire de l'art jusqu'au structuralisme dans les études littéraires. Après les années de l'uniformité imposée des forces, la scène intellectuelle polonaise, tout comme la scène artistique, retrouvait le pluralisme et renouait avec son passé. Un des traits singuliers de cette scène intellectuelle était la place qui occupait la philosophie. Au foyer d'un tissu dense, des relations d'un côté avec l'art et de l'autre avec les humanités, les sciences sociales, les mathématiques. C'était là l'héritage d'un homme dont l'enseignement commençait en 1895 à l'université de Lwów a rénové de fond en comble la philosophie polonaise, mais dont les rayonnements étaient beaucoup plus larges. Kazimierz Twardowski, né en 1866, mort en 1938, disciple de Brentano, faisait partie de ces milieux philosophiques autrichiens, d'où sont sortis à la fois l'empirisme logique du cercle de Vienne et la phénoménologie de Husserl. À la philosophie polonaise, qui s'est trouvée à l'époque dans un état plutôt misérable, il a apporté l'exigence d'une rigueur dans l'expression de la pensée, tout en orientant ses disciples vers la problématique en train de devenir centrale, celle du monde des signes, de sa consistance interne, logique, et de ses rapports avec les choses d'un côté et avec les vécus psychiques de l'autre côté. Dans la Pologne indépendante, les disciples de Twardowski ont occupé les chaires de philosophie ou de logique dans presque toutes les universités. Cracovie faisait exception, comme toujours. Ils étaient aussi très présents dans les mathématiques, la linguistique, la philologie classique, l'étude des littératures modernes. Leurs deux bastions se trouvaient à Lwów, avec Kazimierz Hajdukiewicz, 1890-1963, un des plus grands philosophes polonais de tous les temps, auteur d'un conventionnalisme radical, et à Varsovie avec entre autres Tadeusz Kotarbiński, 1886-1981, héros du réisme, appelé aussi dans ses versions plus tardives somatisme-concrétisme. Nous les retrouverons encore l'un et l'autre. À Varsovie a enseigné aussi Władysław Tatarkiewicz, tous des disciples de Twardowski, 1886-1981, concentré sur l'esthétique, l'éthique, l'histoire de la philosophie. Les disciples de Twardowski formaient ce qu'il est convenu d'appeler l'école de Lwów et de Varsovie, à laquelle un cadre conceptuel intégrateur a été fourni par la problématique qu'ils ont héritée de leur maître. Relativement nombreuses, quelques dizaines de personnes, et présentes dans plusieurs disciplines, l'école de Lwów et de Varsovie avait dans la vie intellectuelle polonaise de l'entre-deux-guerres une position dominante, mais elle n'en avait nullement le monopole. Dans la coule, fondée en 1918, on cultivait la philosophie thomiste dans l'esprit du cardinal Mercier, école des Louvains, ça s'appelait. Et Jacques Maritain avait des jeunes admirateurs dans les milieux catholiques. Leur heure viendra après la guerre. En 1933, l'Université de Lwów a accueilli Roman Ingarden, 1893-1970, un ancien étudiant de Twardowski passé par Fribourg et Göttingen, où il a travaillé avec Husserl. Avec lui, c'est la phénoménologie qui faisait son entrée dans l'enseignement universitaire polonais. Mais la philosophie vivait aussi à l'extérieur de l'université. De ses adeptes, on ne mentionnera ici qu'un seul, Stanisław Ignacy Witkiewicz, 1885-1939, connu comme Witkacy, peintre, dramaturge, romancier et auteur d'une œuvre philosophique abondante où il développait une sorte de monadologie psychologiste. Figure du milieu littéraire et artistique, commenté par Kotarbiński en relation avec Ingarden, ami de l'ethnologue, ami d'enfance de l'ethnologue Bronisław Malinowski, du compositeur Karol Szymanowski et ami puis adversaire du mathématicien, philosophe et peintre Leon Chwistek, auteur, lui, d'une théorie de la réalité plus réelle, Witkacy illustre mieux que quiconque ce qui a été dit plus haut des liens de la philosophie polonaise avec son environnement culturel. Ajoutons pour compléter ce panorama rapide, et d'où nous manque des dizaines de noms, Florian Znaniecki, 1882-1958, titulaire de la première chaire de sociologie en Pologne, créée exprès pour lui, mais au départ un philosophe de plein exercice, il est auteur d'une œuvre philosophique assez abondante qui culmine avec Cultural Reality, publiée aux États-Unis en 1919, promoteur de ce qu'il appelait le culturalisme qui inspirait aussi son approche de la société. Parmi les figures marquantes de la philosophie polonaise de l'entre-deux-guerres, certaines sont mortes avant le début de la guerre. D'autres furent les victimes de l'occupation. C'était surtout le cas des philosophes juifs et des jeunes qui se sont fait connaître à la fin des années 30 et s'il avait le malheur de vivre à Varsovie, n'ont pas survécu à l'insurrection de 1944. D'autres encore, tels Lanietzky et le grand logicien Alfred Tarski, se sont trouvés en 1939 aux États-Unis, d'où ils ne sont plus revenus. La continuité n'en a pas moins été assurée. Kotarbinski a enseigné d'abord à l'université de Łódź, créée dans l'immédiat après-guerre, puis à celle de Varsovie, où Tatarkiewicz a repris sa place. Hajdukiewicz, après quelques années à l'université de Poznań, est revenu lui aussi à Varsovie. Ingarden a reçu une chaire à l'université Jagiellon de Cracovie. À Toruń, où s'est repliée l'université de Vilno, devenue Vilnius, la philosophie fut enseignée par Henryk Elsenberg, 1887-1967, étranger à l'école de Twardowski, ce qui en faisait une exception dans ce monde philosophique, et qui n'a acquis une visibilité que sur l'état dans les années 1960. J'en reparlerai. Dans la sociologie, le flambeau fut repris par les élèves de Slaniecki, sauf à l'université de Varsovie, où il est devenu le domaine de la deuxième génération de l'école de Lwów et de Varsovie, représentée par Stanisław Ossowski, 1897-1963, et son épouse Maria Ossowska, 1896-1974, élève de Kotarbinski, l'un et l'autre. Il en serait question plus tard. Ici qu'il suffise de dire que lui a commencé par la sémiotique et l'esthétique et qu'elle a travaillé sur l'éthique et la science des mœurs. Dans les sciences humaines, la situation n'était pas très différente de celle de la philosophie et de la sociologie. Bouleversé par l'occupation nazie et par les déplacements des frontières qui a modifié entre autres la carte des universités, le paysage intellectuel polonais, tel qu'il s'est présenté vers 1948, était donc assez semblable à celui d'avant-guerre, à une différence essentielle près, l'invasion du marxisme-léninisme. Le marxisme n'était pas inconnu en Pologne. Les premiers tomes du Capital de Marx fut traduit dans la deuxième moitié des années 80, 1880, et de toute manière, l'intelligentsia polonaise maîtrisait en général l'allemand. Dans les dernières années du XIXe siècle, le marxisme a inspiré un courant important de la naissance sociologie polonaise, restée productive dans l'entre-deux-guerres. Un génie philosophique mort jeune, à 33 ans, Stanisław Brzozowski, 1878-1911, a redécouvert dans sa philosophie du travail certains thèmes du jeune Marx et dans cet esprit a critiqué le marxisme d'Engels avant de se tourner vers la religion. Ses œuvres furent rééditées après sa mort et sa pensée a attiré et influencé les intellectuels et les artistes représentant les spectres idéologiques tout entiers, de l'extrême droite à l'extrême gauche et du catholicisme à l'athéisme, tout au long de la période prise ici en considération. Le marxisme-léninisme arrivé en Pologne après la guerre rompait décidément avec ce passé. Il représentait l'idéologie officielle du Parti communiste au pouvoir. Il prétendait être la première idéologie scientifique de l'histoire, à même de guider l'action du parti qui la professait, dans le sens de l'édification d'une société égalitaire et juste, où la spontanéité chaotique des processus économiques et sociaux laissera place à une planification rationnelle et donc à une maîtrise par les hommes de leur destin collectif. Il s'est réclamé de l'exemple de l'Union soviétique et de sa victoire sur les nazis. Il s'est posé en seul rempart contre un retour du fascisme. Et s'il reconnaissait avoir eu des précurseurs et des antécédents, y compris en Pologne, il opérait dans la tradition intellectuelle un tri impitoyable en bannissant tout ce qui était soupçonné d'idéalisme ou du décadentisme bourgeois. Dans un pays où les ruines étaient non seulement matérielles, mais aussi institutionnelles et spirituelles, cette radicalité a attiré de nombreux jeunes. Sortis des années de l'occupation et de la guerre, ils en sont devenus des adeptes enthousiastes, prêts à faire la révolution. Ils seront plusieurs à s'insurger plus tard contre le régime qui les a trompés et déçus. Mais dans les premières années de l'après-guerre, ils en étaient l'avant-garde intellectuelle et artistique, littéraire. Nous les retrouverons. Jusqu'en 1948, les marxistes-léninistes affrontaient leurs adversaires idéologiques sur le terrain des idées, non sans avoir été aidé en sous-main par les services de sécurité et la censure. À partir de cette date, dans un climat de terreur, tous les moyens de pression ont été mis en œuvre pour assurer à l'idéologie scientifique le monopole dans l'enseignement de tous les niveaux, dans les médias, dans la culture. En 1950, plusieurs professeurs d'université furent interdits d'exercer. Parmi les noms cités plus haut, cette mesure a frappé Elsenberg, Ingarden, le couple Sofsky et Tatarkiewicz. Tous les établissements d'enseignement supérieur, à la seule exception de la CUL, ont été obligés d'introduire dans leur programme les cours du marxisme-léninisme. Les anciens manuels furent éliminés, même si, dans la pratique, il fallait y faire appel faute d'en avoir de nouveaux. Ces contraintes ont commencé à se relâcher graduellement à partir de 1955, pour tomber définitivement après les tournants d'octobre 1956. La période de la terreur a pris fin, les prisonniers politiques furent libérés, certaines personnalités éliminées de la vie publique y sont revenues. Dans les sillages de Tegodnik Povšechny, restitué à son équipe d'origine, furent créées une maison d'édition, une nouvelle revue et des clubs d'intelligentsia catholique dans les grandes villes. Dans l'enseignement supérieur, les cours du marxisme-léninisme ont disparu. Les professeurs interdits d'enseignement ont retrouvé leur poste. Les échanges avec l'Occident ont repris. La censure est devenue moins pesante. Des espaces de liberté, fussent-ils restreints, se sont formés que le pouvoir s'est résigné à tolérer, tout en les surveillant de près. Une nouvelle loi a accordé aux universités une autonomie relative mais réelle. La déstalinisation, avec sa libéralisation limitée et une nationalisation du pouvoir communiste qu'il était tout autant, résultait d'une puissante pression populaire avec laquelle les pouvoirs étaient désormais contraints de composer. Elle a amélioré dans une mesure non négligeable la vie quotidienne de la population et elle s'accompagnait d'une effervescence culturelle qui s'est maintenue avec des hauts et des bas pendant environ un quart de siècle. Pour ne pas sombrer dans la nuit d'un annuaire de téléphone, je n'en mentionnerai ici que quelques manifestations. Dans la musique, on voit se succéder les œuvres de Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki et Henryk Górecki qui entrent dans le répertoire international. Les arts plastiques se sont engagés dans une pluralité de tendances allant du néo-impressionnisme jusqu'à l'avant-garde la plus radicale, qu'il suffise de mentionner Magdalena Abakanowicz et Jerzy Nowosielski. Deux metteurs en scène de théâtre sont devenus des célébrités mondiales, Tadeusz Kantor et Jerzy Grotowski. Ajoutons un dramaturge, Sławomir Mrożek, et un critique, Jan Kot. Une autre célébrité mondiale, Andrzej Wajda, a utilisé le cinéma pour poser un regard sans complaisance sur le présent polonais et rétablir les liens avec le passé national. Il a été le maître de toute une école. Des romanciers, nombreux pour quelques-uns traduits en d'autres langues, je ne retiendrai que Tadeusz Konwicki, dont les œuvres me semblent avoir exprimé le mieux la complexité de l'histoire polonaise de son temps, et Stanisław Lem, auteur des récits de science-fiction qui sont en fait des profonds contes philosophiques. Je terminerai cet échantillon des grandes figures internationalement connues de la culture polonaise par la poésie avec Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz et Wisława Szymborska. Le premier symptôme de l'effervescence culturelle a été le réveil du journalisme, engagé de plus en plus dans une critique du régime, d'abord ponctuelle, avec le temps de plus en plus général et radical. Elle s'exprimait surtout dans les hebdomadaires, souvent sous forme de reportages. C'est là qu'a fait ses débuts Richard Kapuściński, devenu plus tard un reporter globe-trotter célèbre. Et elle était portée, cette critique, en grande partie par des jeunes communistes d'il y a 10 ans, révoltés par les effets de la politique du parti qu'ils ont investi de leur enthousiasme, et entrés sans le savoir sur le chemin qui les a conduits à terme à une rupture avec le léninisme stalinisé d'abord, puis avec le marxisme même. On en a une illustration exemplaire dans l'itinéraire de Leszek Kołakowski, 1927-2009, qui était mon maître, donc je suis certainement tendancieux. Assistant pendant quelque temps de Kotarbiński et doctorant de Maria Ossowska, qui a dirigé sa thèse sur Spinoza, il était fortement imprégné des idées de l'école de Lwów et de Varsovie. Mais en même temps, Dès son entrée à l'université, il était membre du Parti communiste, pourfendeur de la philosophie catholique et jeune espoir du marxisme polonais. Logique et idéologie, éthique et politique, ces deux composantes de son univers intellectuel et émotionnel, qu'il conciliait tant bien que mal dans un antifidéisme militant, sont entrés en conflit suite au dévoilement en 1954 du caractère criminel des services de sécurité par un transfuge dans une série d'émissions de la radio Europe Libre qui ont provoqué un vrai séisme au sommet du parti et de l'État. À partir de 1955, Kołakowski publie plusieurs articles retentissants dont le thème central est le contraste entre la vision du monde professée par les partis et la réalité quotidienne. S'y dessine aussi toute la problématique qu'il va explorer et approfondir par la suite, celle de la primauté de l'éthique par rapport à la politique, celle de l'inviolabilité de la conscience individuelle et de sa supériorité par rapport aux doctrines imposées en masse par les appareils, celle de l'autonomie de la culture qu'il faut protéger contre l'asservissement par les idéologies, celle de la liberté en tant que constitutive de l'individu humain et des relations antinomiques de la liberté avec l'égalité. Ce que Kołakowski traduisait en concept, d'autres les mettaient en œuvre dans leurs domaines respectifs. Les jeunes peintres qui, au cours d'une exposition devenue légendaire, ont manifesté leur rupture avec les réalismes socialistes, esthétique officielle que les partis communistes imposaient à tous les créateurs, ne faisaient à leur manière rien d'autre que d'affirmer chacun son individualité et son droit de pratiquer l'art librement, conformément à sa vision personnelle des choses. Les compositeurs qui eux aussi ont refusé les oukases du réalisme socialiste pour choisir chacun ses moyens de faire la musique, s'engager sur la même voie, tout comme les gens du théâtre et les écrivains. Tous, ils arrachaient la culture à l'emprise des apparatchiks, se réappropriaient les décisions la concernant et la réintégraient dans les échanges qui en faisaient une partie intégrante de la culture mondiale. Car l'ouverture sur l'Occident et la réception de ce qui s'y est fait de nouveau depuis la guerre, voire depuis l'entre-deux-guerres, a joué un rôle essentiel dans la vie intellectuelle et spirituelle de la Pologne après 1956. La pensée française de Sartre à Teilhard de Chardin, en passant par Camus, Merleau-Ponty, Maritain, Mounier et Gabriel Marcel, les romans américains, surtout Faulkner et Hemingway, et la sociologie américaine de Talcott Parsons et Cecil Wright Mills, les cinémas italiens avec Fellini et suédois avec Bergman, les pièces de Brecht et de Dürrenmatt, et le théâtre de l'absurde de Beckett et de Ionesco, la musique d'avant-garde, Boulez, Stockhausen, Luigi Nono parmi d'autres, les arts plastiques de Picasso, dont les noms étaient célèbres, mais dont les œuvres étaient peu connues, sinon pas connues du tout, de Picasso donc à Hartung, tout cela a fait simultanément irruption sur la scène culturelle polonaise, isolée depuis 1939 par la guerre et par les pouvoirs politiques communistes depuis 1948. Et ce n'est pas tout. L'ouverture sur l'Occident a entraîné en effet un élargissement des canaux, auparavant très étroits, par lesquels passaient en Pologne les productions des émigrés, les livres de Gombrowicz et de Miłosz, de Gustav Herling-Grudziński, Kultura et autres éditions de l'Institut littéraire des Maisons Lafitte. Même si la collaboration avec son directeur, Jerzy Giedroyć, fut punie dans certains cas par des peines de prison, les émigrés participaient désormais par leur écrit au débat interne. Dans ces climats, la philosophie, les humanités et les sciences sociales ont renoué avec leur tradition. Certes, les marxistes occupaient toujours les positions dominantes dans les universités et dans d'autres institutions culturelles, mais ils étaient profondément divisés. Il y avait ceux dont les positions étaient proches de celles de Kołakowski et que les instances officielles qualifiaient de révisionnistes, terme utilisé depuis 1958. Et ceux qui défendaient l'orthodoxie mais qui étaient loin d'être unanimes. Les choses en sont arrivées au point où même les marxistes officiels en chef, Adam Schaff, 1913-2006, s'est attiré les critiques du parti pour avoir publié un livre, « Le marxisme et l'individu humain » 1965, Pardon, voilà. Dont le titre suffit à montrer qu'il tentait d'intégrer dans la perspective orthodoxe la problématique existentielle rendue prégnante par les méfaits du stalinisme. Ce faisant, sauf succomber lui-même au révisionnisme, car il affirmait que le régime socialiste horreur n'a pas réussi à éliminer l'aliénation. C'était là un symptôme particulièrement frappant de la décomposition du marxisme-léninisme sous les coups d'une contestation interne de plus en plus radicale et de la confrontation avec l'extérieur capitaliste qui ne se laissait pas enfermer dans les lits des procrustes conceptuels hérités de Lénine. Au pôle opposé, la philosophie catholique est représentée par plusieurs noms, dont je ne retiendrai ici que deux, celui de Stefan Świeżowski, 1907-2004, et celui de Karol Wojtyła, futur pape Jean-Paul II. Je ne donne pas les dates, sont connues. Le premier, Świeżowski, a fait ses études à l'université de Lwów avec Hajdukiewicz comme directeur de thèse. Et il est resté fidèle à l'exigence de rigueur conceptuelle et de clarté préconisée par son maître. Mais il a étudié aussi avec Gilson et subit une forte influence des maritains avec lesquels il a correspondu jusqu'à la mort de ces derniers. Le néo-thomisme de Świeżowski insistait sur la dimension rationnelle, pour ne pas dire rationaliste, de la pensée de saint Thomas, tout en mettant au premier plan son anthropologie philosophico-théologique. C'est sous le titre « Traité de l'homme » qu'il a traduit et commenté les articles 75 à 89 de la première partie de la Somme théologique. Paru en 1956, ce livre participe du tournant anthropologique de la philosophie polonaise, dont on pouvait voir à la même époque une autre manifestation dans les écrits de Kowakowski. Świeżowski était, entre autres, professeur, puis collègue et ami du jeune Karol Wojtyła. Rien d'étonnant que c'est dans la même direction, mais avec un accent mis sur la dimension personnaliste, que ce dernier s'est engagé dans sa thèse d'habilitation qui essaie de compléter le néo-thomisme par l'éthique de Max Scheler. Soutenue en 1953, la thèse a été publiée 6 ans plus tard. L'ont suivi plusieurs autres ouvrages, dont je ne citerai ici que deux, qui montrent bien l'orientation de la pensée voïtylienne. « Amour et responsabilité » de 1960 et « La personne et l'acte » de 1969. Les livres de Wojtyła illustrent la place prise par la phénoménologie dans la philosophie polonaise des années 1960-1980. On ne saurait la séparer, à ce qu'il semble, de la présence à l'université Jagiellon de Cracovie d'un représentant éminent de ce courant, Roman Ingarden. Ses œuvres furent alors rééditées et pour certaines écrites à l'origine en allemand, traduites en polonais, ce qui leur a assuré une audience au-delà du milieu philosophique, notamment parmi les théoriciens de la littérature et plus généralement les adeptes de l'esthétique. Avec son petit livre sur l'homme, de 1972, Ingarden a apporté sa contribution à l'anthropologie philosophique. Quant à son enseignement, il a donné naissance à une école dont on ne mentionnera ici qu'un représentant devenu une figure de la vie publique, Józef Tischner, 1931-2000. Prêtre et penseur catholique, il a abandonné le néo-thomisme qu'il a soumis à une critique principielle. L'appareil conceptuel qui lui permet de penser la personne humaine dans son environnement social vient de la phénoménologie qu'on retrouve à l'arrière-plan de ses livres « Philosophie du drame » de 1990 et « La controverse sur l'existence de l'homme » de 1998. Mais auparavant, la phénoménologie est entrée, grâce à lui, fût-ce à l'insu de ses lecteurs, dans les débats publics des années de l'opposition démocratique et de Solidarność. Le panorama des anthropologies philosophiques polonaises resterait incomplet s'il passait sous silence deux penseurs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui probablement ne se connaissaient pas, mais qui ont en commun de ne pas se laisser enfermer dans des rubriques préfabriquées. Henryk Elsenberg, déjà rapidement évoqué, restait inconnu du grand public jusqu'à l'apparition en 1963 de son livre « Troubles de l'existence, aphorismes dans l'ordre du temps ». Il avait alors 76 ans. Ce journal philosophique, rédigé pendant plus d'un demi-siècle, a révélé un auteur original et solitaire dont la réflexion sur soi-même aborde les grandes questions métaphysiques réfractées dans l'expérience quotidienne des vivres. Elsenberg est resté présent par la suite surtout grâce au grand poète Zbigniew Herbert, qui s'est reconnaissé son disciple. Il a fait ses études sous sa direction. Jan Strzelecki, 1919-1988, abordait lui aussi la problématique existentielle. Il l'abordait toutefois dans une perspective non pas égologique, mais sociale, voire socialiste. Élève de Stanisław Ossowski et en termes d'affiliation disciplinaire lui-même sociologue, il a poursuivi tout au long de sa vie une réflexion sur la personne humaine dans son environnement historique, tantôt contrainte de faire face à des situations extrêmes, à l'expérience de l'occupation et de la guerre, tantôt condamné au clair-obscur de la normalité. Réflexion aussi sur les institutions sociales, jugées à l'aune de leur capacité d'assurer à la personne sa dignité et sa liberté. L'humanisme socialiste dont Strzelecki qui s'est fait le héros dans l'immédiat après-guerre était du même coup un personnalisme, d'où l'affinité de Strzelecki avec les idées de Mounier et son rôle de passeur entre les deux milieux séparés par une inimitié enracinée dans le XIXe siècle. C'est lui qui gravitait autour de l'Église et c'est lui qui a pris fait et cause pour la libre pensée. Les membres de l'école de Lwów et de Varsovie ont adopté en majorité cette dernière attitude. C'était en particulier le cas de Kotarbinski et de la plupart de ses disciples. Avec sa réceptivité à la pensée chrétienne, Strzelecki faisait dans ces milieux figure d'exception. Tant la philosophie analytique de l'école de Lwów et de Varsovie que la phénoménologie d'Ingarden n'est manifesté aucun intérêt pour l'histoire. Il en allait autrement de Świerczewski, dont le néo-thomisme, à l'instar de celui de Gilson, était prolongé par les recherches sur l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge, poursuivies par lui-même et par ses disciples, d'abord à la Coule, puis aussi à Cracovie et à Varsovie. L'Institut de philosophie et de sociologie de l'Académie polonaise des sciences, où Świerczewski tenait son séminaire, en est devenu le centre. Réalisé pendant une trentaine d'années par cette équipe, l'énorme travail de découverte et d'édition des manuscrits philosophiques médiévaux des bibliothèques polonaises et étrangères a eu pour couronnement l'histoire de la philosophie européenne au XVe siècle de Świerczewski, en 8 volumes, parus entre 1974 et 1990. L'histoire de la philosophie intéressait aussi au plus haut point les marxistes, déjà débarrassés du léninisme, et en train de s'éloigner de Marx pour bientôt s'en séparer définitivement. Autour de Kołakowski et de Bronisław Baczko, 1924-2016, qui ont parcouru de concert cet itinéraire, s'est réuni ainsi un groupe de chercheurs orientés d'une part vers la pensée philosophique et théologique de la première modernité, notamment vers l'antitrinitarisme polonais et ses ramifications en Occident, et d'autre part vers la pensée du XIXe siècle, plus spécialement en Pologne et en Russie. Ce groupe qui s'est réuni régulièrement à l'Institut de philosophie et de sociologie et dans les séminaires de Kołakowski et de Baczko à la faculté de philosophie et de sociologie de l'Université de Varsovie a produit une impressionnante bibliothèque d'ouvrages dont certains sont désormais internationalement connus. Je n'en mentionnerai que deux pour illustration. Chrétien sans Église, la conscience religieuse et les liens confessionnels au XVIIe siècle de Kołakowski, 1965 en polonais, 4 ans plus tard en français, et Rousseau, Solitude et communauté de Baczko, 1964 en polonais, 1974 en français. Aussi importants qu'ils aient été, les problèmes anthropologiques et historiques n'étaient pas les seuls à focaliser l'attention de la philosophie polonaise. Les travaux des maîtres de l'école de Lwów et de Varsovie ont été réédités dans les années 1960, et ils avaient des continuateurs tant s'agissant de la logique que de la réflexion sur la science. Cette dernière, dans un esprit proche de Popper, était intéressée plus spécialement par la méthode censée définir la scientificité. De leur côté, les marxistes, qui se séparaient de plus en plus du matérialisme dialectique, abordaient eux aussi la science dans une perspective similaire, tout en tenant compte du caractère historique des concepts qu'elle élabore. La critique de Popper par certains de ses disciples et les travaux de Kuhn, surtout son livre « La structure de l'évolution scientifique » 1962, promptement traduit en polonais, ont renouvelé cette problématique et inspiré une philosophie de la science originale développée par Stefan Amsterdamski 1929-2005 qui s'applique à montrer comment la rationalité inhérente à la science s'articule avec son historicité. Les liens de la philosophie avec la sociologie inscrits dans les noms mêmes des deux établissements où s'est concentrée une grande partie de la recherche et de l'enseignement de l'une et de l'autre étaient incarnés dans la vie et les œuvres du couple que formaient Stanisław et Maria Ossowski. Convaincus tous les deux que les sciences sociales diffèrent dans leurs principes des sciences naturelles, car elles ne peuvent être correctement pratiquées sans prendre en compte ces caractères constitutifs des faits sociaux que la conscience qu'en ont les acteurs de la vie en société, ils s'orientaient dans des directions différentes. Sa sociologie à lui s'appliquait à expliciter la spécificité du lien social et montrer comment la structure des classes se réfracte dans la conscience sociale. Tandis que ses travaux à elle étaient tournés vers une étude des mœurs qui prenait en considération leur dimension historique. Parmi les disciples d'Ossowski à côté de Jan Strzelecki s'est distingué Stefan Nowak, 1924-1989, auteur des enquêtes novatrices sur l'état de l'opinion, ce qui, soulignons-le, avait dans la Pologne populaire une portée politique et a valu à Nowak des longues tracasseries administratives. À partir de ses recherches empiriques, Nowak a poursuivi une réflexion sur la méthodologie et formé à son tour une école active dans la sociologie polonaise jusqu'aujourd'hui. Mais l'importance du couple Ossowski dépassait de loin les frontières de l'université. Plus encore que leur maître Kotarbiński, ils étaient l'un et l'autre des autorités morales, exemples d'un courage civique et d'une force intérieure qui les a conduits à s'opposer à tout ce qu'ils tenaient pour inacceptable chaque fois quand il fallait le faire. Avec d'autres sciences humaines et sociales, la philosophie n'avait pas de rapports institutionnels. Or, elle traversait en Pologne comme ailleurs une période particulièrement créatrice. C'était le cas des études littéraires, de la théorie de l'histoire de la littérature. Dans la première, les ponts avec la philosophie étaient édifiés surtout par les travaux d'Ingarden, tandis que les séminaires de Batschko attiraient avec les historiens de la philosophie des adeptes de la seconde, de l'histoire littéraire. C'était aussi le cas de l'histoire de l'art, plus éloignée de la philosophie, et de l'histoire politique, économique et sociale qu'il était encore plus. Si les représentants de toutes ces disciplines, auxquelles il faut ajouter l'économie, entretenaient néanmoins des relations les uns avec les autres et relevaient plutôt de la sphère informelle, des similarités des curiosités intellectuelles, des affinités des options politiques, voire des amitiés et du hasard des rencontres, de la vie privée en un mot, dont il faut ici souligner le rôle irremplaçable. C'est là que s'est noué les rapports de confiance entre les personnes, que circulaient les publications prohibées, que s'exerçait la liberté de parole et que étaient discutés des sujets interdits de l'espace public. Pour décrire de façon exhaustive les problèmes explorés par la philosophie polonaise, il faudrait consacrer beaucoup de place à l'esthétique, ce que je ne me sens pas compétent de faire. Qu'il suffise de noter l'importante contribution qu'a apportée à ce domaine Ingarden dans plusieurs travaux consacrés à l'œuvre littéraire et devenus des classiques. Il faudrait aussi dégager plus fortement la dimension éthique de la pensée de tous les auteurs dont il a été question, particulièrement importante chez Kowakowski. Dimension éthique, dont j'ai souligné déjà la pointe anti-idéologique et anti-totalitaire, manifeste dans l'insistance sur l'inviolabilité de la conscience individuelle, sur la liberté irréductible de l'individu et sur la responsabilité qu'il porte tant de ses actes que de ses abstentions. Rien n'autorise à établir un lien direct entre ces idées et l'essor de la résistance au pouvoir communiste, restée longtemps une dissidence avant de devenir l'opposition démocratique. Elle a pu apparaître à visage découvert à la faveur des accords d'Helsinki de 1975 et après un affaiblissement du régime provoqué par la révolte ouvrière dans les villes du littoral de la Baltique et la grève des ouvrières de Łódź, le premier en décembre 1970, le deuxième en février 1971. Et c'est une nouvelle manifestation des ouvriers en juin 1976 qui a servi à la dissidence des points de cristallisation en suscitant la création du corps Comité de défense des ouvriers. Mais des dissidents, il y en avait déjà avant, qu'il s'agisse de Kowakowski, de Jacek Kuroń et Karol Modzelewski, auteur d'une lettre ouverte au parti qui a provoqué leur emprisonnement, de quelques figures du milieu intellectuel et littéraire ou des étudiants réprimés suite à leur révolte contre la mise au pas des universités, doublée d'une campagne antisémite en mars 1968. Et les documents sont nombreux qui attestent la réception dans ces petits milieux dissidents des écrits de Kowakowski, de Strzelecki, d'Elsenberg, de Tischner, de la pensée de Dietrich Bonhoeffer, devenue accessible en polonais en 1970, et d'autres textes d'origine chrétienne. Sans tomber dans des causalités simplistes, on peut dire seulement que l'enseignement des philosophes a joué un rôle dans la naissance de l'esprit contestataire et par conséquent dans l'évolution qui a débouché en Pologne sur la transition démocratique de 1989. Merci de votre attention.
Merci beaucoup pour cette historique finalement assez peu connue, pas assez connue ici, je trouve. Et maintenant, nous avons un temps pour les questions. Qui veut s'exprimer? Oui, monsieur.
Tout d'abord, merci.
Vous avez un micro devant vous, je pense, non?
Voilà. Merci pour cette portrait riche en détails et grand dans sa conception de la pensée polonaise à travers presque tout le XXe siècle, sauf jusqu'à à peu près 1989.
Pouvez-vous parler un peu plus fort, monsieur, parce que je vous entends mal.
Je souffre un peu de cette
je comprends, mais donc,
hiver sibérien.
Parlez plus près du micro, s'il vous plaît.
Voilà. C'est mieux maintenant?
Ça va.
OK. Vous avez cité à un moment donné dans votre discours, dans votre présentation, l'école, en quelque sorte, Baczko-Kolakowski, appelée, mais pas par vous, l'école de l'histoire d'idées de Varsovie. Szkoła Warszawska Historii Idei. Qui est devenue, dans son temps, déjà une école assez connue, quelque peu contestée aussi. Jusqu'à ce jour même, il n'est pas tout à fait certain si les soi-disant membres de cette école s'identifient comme membres d'une école. Je voudrais vous entendre à ce sujet. Mm-hmm. Est-ce que cette école existait? Quel était finalement son apport, entre autres, aux divers mouvements que vous avez mentionnés ici? Et en particulier aussi, peut-être un mot à propos d'une publication en 1974 intitulée « Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego », dans laquelle vous avez participé vous-même, étant le premier texte même dans ce volume. Ma question étant, comment expliquez-vous de temps à autre l'émergence de Stanisław Brzozowski comme une sorte de phare à des moments critiques dans la culture polonaise, y compris à présent, actuellement, par une certaine revue qui s'appelle Critica et Politica, et qui, gauchisant un tout petit peu, tout de même, n'est-ce pas, se base en quelque sorte sur Stanisław Brzozowski et son importance en tant qu'une sorte d'exemple, une sorte de phare, n'est-ce pas, pour une nouvelle culture polonaise. Excusez-moi de la complexité de la question, mais...
Non, je comprends. Bon, pour, j'avais dit, l'école Baczko-Kołakowski ou l'école de Varsovie, de l'histoire des idées, comme on l'appelle couramment, le nom vient d'un historien portugais, brésilien, pardon, qui s'appelait Rubem César Fernandes, qui était notre étudiant dans les années 60, et qui en 1968 a eu l'excellente idée de dire à une des personnalités du parti très importante ce qu'il en pensait. Comme les Polonais de Rubem étaient peut-être légèrement approximatifs, c'était encore plus dur que ce qu'il aurait dit s'il était complètement polonophone. Toujours est-il que la réponse des messieurs en question était « Vous n'aurez plus votre visa ». En effet, Rubem a été expulsé de la Pologne, ce qu'il considérait comme une expulsion du paradis perdu. Il est allé à Columbia, et à Columbia, il a soutenu une thèse, un PhD, « The Warsaw Circle of the History of Ideas ». À partir de là, petit à petit, et grâce aussi à Paweł Śpiewak, qui a publié un article sur le sujet dans les années 70 encore, l'idée qu'il existait une école a commencé à germer, à s'imposer. Jamais, je crois, explicitement assumé ni par Kołakowski, ni par Baczko, ni par moi-même d'ailleurs non plus, bien que je sois cité parmi ses membres. Mais à vrai dire, je pense aujourd'hui plus tranquillement que c'est une discussion sémantique. S'il plaît de dire que c'était une école, va pour une école, rien de gênant. Ce qui est parfaitement vrai, c'est qu'il y a tout ce groupe de gens qui se rencontrent, qui fonctionnent ensemble, qui ont leur lieu, comme je l'ai dit dans ma conférence, dans les séminaires de Bashko à l'Institut de philosophie et de sociologie, et dans les séminaires tant de Bashko que de Kolakowski à l'université. Maintenant, dans ces milieux, il y avait aussi des gens qui avaient des activités plus politiques. Mais ça n'avait rien, enfin, ça avait qu'un lien personnel avec la dite école, si tant est qu'il y en avait une. Il y avait tout un groupe de gens auxquels j'ai fait ici allusion, mais vraiment très cryptique et discrète, qui réunissaient quelques économistes, des sociologues, des historiens, plus Kolakowski, Bashko, moi-même, qui se réunissaient régulièrement pour discuter des sujets politiques. Ce n'était pas complètement clandestin parce que nous bénéficions de l'hospitalité d'une personnalité tout à fait officielle, qui savait parfaitement ce que nous faisions d'ailleurs, mais qui nous laissait utiliser son bureau pendant nos débuts pour nos réunions et même d'envoyer nos convocations. Ça s'appelait séminaire de culture politique et ça avait un caractère beaucoup plus... C'est-à-dire là, on discutait carrément de la situation dans les pays, des falsifications de l'annuaire statistique et d'autres sujets plutôt difficilement publiables. Donc, il y a évidemment un lien entre la dite école et le révisionnisme. De nouveau, Kolakowski est exclu. Kolakowski est exclu du parti en 1966, nous étions ensemble dans cette situation. Bashko le sera en 1968, plusieurs autres membres de ces séminaires suivront à peu près à la même date. Donc ça, c'est une réponse qui a le droit de ne pas vous satisfaire, parce que moi je ne prends pas position sur l'existence de l'école. Je dis encore une fois, réflexion faite, s'il plaît qu'il y ait eu une école, ok, va pour l'école, ça ne change rien sur l'essentiel.
J'interviens en posant une question de détail. Vous n'avez pas cité le nom d'Andrzej Walicki. Alors, non pas pour ouvrir une controverse ici, mais tout simplement, il est clair que Walicki est prêt à mourir pour cette idée que cette école a existé.
Oui, bon, je dirais que c'est son affaire. Ce n'est pas la seule divergence entre nous. Mais peu importe, Walicki faisait partie de ce groupe, de quelque manière qu'on l'appelle, groupe, école, secte, tout ce qu'on veut. En faisait partie, une partie éminente. Puisque je caractérise ça d'une manière générale, c'est pour lui que j'ai introduit la Russie en parlant de la pensée du 19e siècle en Pologne et en Russie. Il travaillait sur les deux sujets. C'est un grand savant qui a laissé d'importants travaux. Et donc, tout ça est incontestable. Maintenant, ce serait un tout autre sujet. Pourquoi il tient tant à son existence, hein, pourquoi, à la limite, ça m'est parfaitement égal qu'elle ait existé en tant qu'école ou non.
Et Bzozowski, vous n'avez pas...
Attendez, non, mais on s'attardait sur ces sujets-là. Je n'ai pas oublié Bzozowski du tout. Alors, Bzozowski. Comme je l'ai dit, Bzozowski est mort très jeune, et en 33 ans de sa vie, dramatique, malade, tuberculeux, comme c'était souvent dans les cas des intellectuels fin des siècles, en plus soumis à un certain moment à une persécution absolument ignoble de la part du Parti Socialiste, qu'il a accusé, qui a utilisé en fait... un ruche pour l'accuser d'avoir collaboré avec Okhrana, la police politique tsariste, ce qui n'a jamais été démontré. Donc, dans cette circonstance difficile, il a produit une œuvre énorme, c'est à peu près une dizaine de gros volumes de ses écrits, des valeurs aussi très inégales, il écrivait beaucoup tout simplement pour gagner sa vie, mais qui a marqué certainement la pensée polonaise et bien au-delà du monde universitaire. Parce qu'il y a dans cette œuvre, extrêmement ambiguë sur les plans idéologiques, s'agissant surtout de certains écrits, mais il y a dans cette œuvre une sorte de tension spirituelle et des souffles intellectuels qui en font quelque chose de tout à fait exceptionnel. Brzozowski, pendant 33 ans de sa vie, a parcouru pratiquement toute la scène idéologique, d'un bout à l'autre. En fait, il commence un peu dans les sillages du positivisme de Varsovie, pour terminer par un journal qui montre une personnalité tourmentée et religieuse, en passant justement par un marxisme qu'il redécouvre lui-même pour une bonne partie. Personne n'a, à ma connaissance, peut-être Mansfeld dans son dernier livre, mais je n'en ai pas les souvenirs, n'a vraiment étudié ses lectures marxistes, ce qui serait intéressant par ailleurs. Mais il a redécouvert le jeune Marx à l'époque où aucun texte du jeune Marx n'était pas publié, tout simplement, puisque la première publication des écrits de jeunesse doit dater de 1932, si je ne me trompe pas. Il le redécouvre, c'est avec ça qu'il lit Engels, il publie un texte assez retentissant qui s'appelait « Anti-Engels ». Mais en même temps, on trouve dans certains de ses textes des éloges de ce qu'il appelle la zoologie politique, qui en fait carrément, par ces passages, les compagnons des routes de ce qui s'appelait en Pologne la démocratie nationale, dont les liens avec la démocratie étaient plus ténus, il aurait mieux fait de s'appeler la démocratie nationaliste, si c'était plus exact. Ce qui fait que Brzozowski, et ça c'est visible dès les années 20, est d'une part inspirateur de l'extrême gauche, à telle enseigne d'ailleurs que le Parti communiste polonais condamnera officiellement, par une décision de ses instances supérieures en 1926, si mes souvenirs sont exacts, mais là je n'ai pas vérifié mes dates, une éminente figure du monde communiste qui a publié un livre complètement d'un bout à l'autre inspiré par Brzozowski. Il s'agit de Julian Brun et d'un livre qui s'appelait en polonais Stefana Jeromskiego Tragedia Pomyłek, la tragédie des erreurs de Stefan Jeromski, publié en 1925. Jeromski, un grand écrivain de cette époque, aujourd'hui un peu oublié, est mort en 1924, si mes souvenirs sont exacts. Donc, d'une part, les communistes, et qui, malgré toutes les condamnations, vont lire surtout un roman de Brzozowski qui s'appelait « Les flammes promiennes », et qui a recruté pour les partis socialistes, pour les partis communistes polonais, à peu près autant de monde que la condition humaine des malheureux a recruté pour les partis communistes français. Enfin, moins, parce que les partis communistes polonais étaient petits. Et d'autre part, Brzozowski est lu et admiré par les représentants de l'extrême droite polonaise. Et au milieu, par des grandes figures de spiritualité. L'homme, par exemple, pour qui Brzozowski comptait énormément, c'était Józef Czapski, qui a passé une grande partie de sa vie à Maison Lafitte, justement, et qui est non seulement un peintre et un écrivain, mais aussi vraiment une personnalité spirituelle. Czapski, c'était, si j'ose dire, la spiritualité fait homme. Et Brzozowski est un de ses auteurs. Donc, si vous voulez, c'est probablement mon hypothèse, et c'est un peu ce de quoi je parle dans l'article que vous m'avez fait le plaisir de rappeler ici dans ces recueils collectifs de 1974, qui en fait, c'est un peu antérieur parce que c'était un colloque étalé sur 3 ou 4 jours dont les actes ont été publiés là. C'est un peu cette ambiguïté de Brzozov, cette ambivalence, la possibilité de le préparer enfin à toutes les sauces, qui lui a assuré une présence posthume, y compris dans Critica Politica aujourd'hui, tout à fait, dont vous parlez, qui de nouveau les relie dans une perspective gauchiste.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur.
Je voulais d'abord vous remercier beaucoup pour cette fresque absolument magnifique et très excitante, et d'ailleurs demander en passant éventuellement communication de l'écrit, parce qu'un certain nombre de noms et d'œuvres, je n'ai pas eu le temps de les noter, je voudrais pouvoir les approfondir, mais bon, c'est un détail. Je voulais vous demander dans quelle mesure toute cette activité a reposé sur des liens étroits, soit avec la diaspora polonaise, soit de manière générale avec la communauté intellectuelle mondiale. Dans quelle mesure était-ce une activité essentiellement locale, où la vie privée, les liens entre personnes et la confiance établie dans ces conditions très difficiles? Bon, il y a cet aspect-là, et puis d'autre part, il y a clairement cette dimension européenne, internationale, que sais-je, qui a joué un rôle, et je voulais vous demander peut-être quelques paroles, quelques mots sur le lien entre cette dimension locale, nationale, et la dimension internationale, diasporique.
Non, la pensée polonaise a été toujours, et la culture polonaise, a été toujours insérée dans la culture occidentale et dans la circulation des œuvres et des personnes, même à l'époque, quand on ne traduisait pas du polonais. J'ai parlé de l'école de Lwów de Varsovie. Elle est absolument inséparable des Vienne, fin des siècles, où Twardowski d'ailleurs fait ses études, des Graz, fin des siècles, pardon, avec Meinung et compagnie, des Fribourg, des Husserl. Ça circule dans tous les sens. Hajdukiewicz, dont j'ai dit, je ne suis pas très original en le disant, qu'il était probablement un des plus grands philosophes polonais de tous les temps, publie les 2 articles qui font de sa réputation philosophique dans l'Erkenntnis de Vienne. Ils seront traduits en polonais plusieurs années plus tard. Quand nous étions étudiants, dans les cours des logiques, et moi, j'ai fait mes études à la pire époque, 1952-1957. Mais dans les cours de logique, on nous parlait des Popper. Pas des Popper de Open Society and its enemies, mais des Popper de la logique der Forschung, 1936, si mes souvenirs sont exacts. Donc, et évidemment 34, des principes mathématiques qui avaient... Pardon, 34. Mais si. Et évidemment, Principia Mathematica, qui ne sont pas un livre précisément à lire, mais qui était considéré comme une sorte de Bible par toute l'école de Lwów de Varsovie. Whitehead et Russell, c'était des noms donc qu'un étudiant entendait à la première année. Il pouvait ne rien y comprendre par ailleurs, ce n'est pas très évident. La théorie des types, ça ne s'explique pas très facilement. Mais il entendait ces noms. Donc, alors, dans des bons moments, là je parle de moments particulièrement mauvais, mais dans des bons moments, après 1956, il y a une vraie ouverture. C'est-à-dire, d'une part, il y a énormément de boursiers polonais qui partent pour l'Occident. Il y a les bourses de la Fondation Ford, il y a les bourses du gouvernement français, il y aura plus tard des bourses de la Fondation Humboldt, mais ça c'était après l'établissement des relations diplomatiques. À l'époque, l'Allemagne occidentale est complètement fermée. Il y a le Congrès pour la liberté de la culture qui, sous diverses, de diverses manières, invite, Roselyne Chaigneux est ici, qui, de diverses manières, invite les gens sans se dévoiler, évidemment, mais qui pouvait... Comme j'ai mentionné ici les problèmes d'argent, c'était un problème extrêmement difficile. Vous pouviez, en théorie, partir pour l'Occident. Encore fallait-il pouvoir acheter un billet et avoir de quoi vivre. Et pour obtenir les visas, il fallait avoir l'attestation de quelqu'un qui vous invite. Donc tout ça, les congrès étaient passés maîtres dans l'art d'arranger ce genre de choses, de trouver des invitations, etc., etc. Donc il y a plusieurs institutions en Occident, et de ces institutions, on en profite. Il y a désormais des thèses sur les échanges culturels franco-polonais pendant cette époque. Donc le sujet a même été assez bien étudié. Et en ce sens, on ne peut pas séparer tout ce qui se passe à Varsovie des années, mettons, 1956 et après, même après 1968, de ce qui se passe ailleurs. Les livres arrivent. J'ai parlé ici d'Adam Schaff, qui était en effet le marxiste en chef en Pologne pendant de longues années avant d'être éjecté du comité central de son poste. Il m'arrive d'en dire du mal, mais je voudrais en dire du bien. Schaff comprenait une chose, et à mon avis c'était beaucoup plus important que tout ce qu'il a écrit dans ses livres, mais là, il n'aurait pas du tout aimé ce genre de commentaires. Il était le grand protecteur et le grand argentier de la bibliothèque commune de la faculté et de l'institut. Nous avions tous les livres à partir de 1956. Nous avions des trous énormes pour la période de la guerre, et même pour avant. Mais après 1956, nous achetions à tour de bras. Nous étions abonnés à toutes les revues. J'ai un peu participé en volontaire à aider la direction de la bibliothèque, et donc ça c'est un secteur que je connais très bien. Même Cultura arrivait à la bibliothèque. Bon, en principe elle n'était pas communicable, mais les principes et la réalité ont la tendance fâcheuse, et parfois pas si fâcheuse que ça, de prendre leur distance. Donc tout ça s'est fait dans ces climats. Et puis il y a énormément de choses qui arrivaient quand même tout à fait officiellement. Les théâtres occidentaux, les cinémas, les invités des marques. Nous avons eu le plaisir, à un certain moment, d'avoir parmi nous Jean Hippolyte. Pour moi, personnellement, c'est un moment inoubliable. Mais à côté d'Hippolyte, il y en avait beaucoup d'autres. Des Français, pas seulement des Français. Bon, il y avait évidemment aussi Roger Garaudy, ça c'était beaucoup moins marrant. Mais ça vous montre un peu l'éventail.
Merci. Je précise que les deux conférences de Constantin Sigov qui a eu lieu il y a à peu près un mois ou un peu plus et celle de M. Pomian seront mises sur le site de Canal Academy, donc pourront être visionnées. Et puis, si vous acceptez de nous donner le texte de votre conférence, on la publiera par écrit avec la question des noms propres que vous soulevez, en effet.
Oui, c'est bon, pas ce problème.
Est-ce qu'il y aura une dernière question? Oui, monsieur. Alors, on vous laisse la parole, puisque...
Non, je suis venu de la Suisse pour cette conférence, je me permets quand même. Pour revenir à cette soi-disant école de Varsovie, je vous dirai pourquoi, puisque je suis de l'université de Fribourg en Suisse, mm-hmm. et avec un collègue slaviste, nous menons depuis 3 ans un projet consacré à Brzezowski, si bien qu'il y a différentes sortes de chapitres Brzezowski à propos de Brzezowski lui-même, mais la tâche m'a tombé en effet dessus, d'écrire sur cette soi-disant école de l'histoire d'idées de Varsovie. Donc évidemment mon intérêt est de vous poser certaines questions. Je sais qu'il y a des divergences entre les anciens et ceux qui sont toujours en vie, vous-même compris, en ce qui concerne l'existence et la méthodologie de cette école. Et justement, je voudrais vous poser une question à propos de la méthodologie. Walitsky, pour revenir à Walitsky encore, prétend que à peu près tous les membres, vous-même compris, partageaient une certaine vision méthodologique, inspirée à un moment donné par le marxiste français Lucien Goldman. Son livre sur Pascal. Est-ce que vous êtes à même de dire quelques mots à ce propos-là. L'idée étant, n'est-ce pas, que voilà, il y a ces Schwertopoglandes, ces visions du monde, ces Weltanschauung en quelque sorte, au centre duquel se trouve une sorte poussée éthique fondamentale en ce qui concerne justement ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anthropologie philosophique. C'est ce qui se marie bien avec évidemment certains intérêts de Kolakowski à l'époque, certains intérêts de Batchko à propos de l'aliénation, mm-hmm. et donc peut-être même c'est ce que je sens trouver un tout petit peu justement dans le texte que vous avez publié dans Vocal Michel Stanislav Jozefskiego. Est-ce que Goldman était à un moment donné une sorte de phare méthodologique importante dans la pensée de ces historiens d'idées et philosophes?
Non, les termes Schwertopoglande, Weltanschauung, vision du monde en français, avec tout le respect pour Lucien Goldman, ne vient pas de lui.
Bien sûr.
Et il vient de Diltai,
bien sûr.
Fondamentalement. Mmh. Et c'est dans ces parages-là, je pense, qu'on l'a trouvé. Je ne suis pas sûr que vous rendiez d'une manière exacte la pensée de Walizki sur les sujets. Parce que tel qu'il me souvient de l'avoir lu, il a noté, au contraire, nous avons lu tous Les dieux cachés, bon, de Goldman, et c'est un livre qui, sur beaucoup d'entre nous, a exercé une influence. Kolakowski a publié un long compte-rendu de ce livre. Moi, ça m'a fait changer de sujet de thèse, parce que je pensais, Kolakowski, qui était mon directeur de thèse, pensait aussi que je ferais une thèse sur Pascal. Après Goldman, nous avons décidé que ça ne valait plus la peine. Et j'en suis ravi parce que je me suis retrouvé avec une thèse sur Pierre Bayle qui était exactement ce qu'il me fallait. Bon. Je ne sais pas si j'aurais été très heureux avec une thèse sur Pascal, j'en sais rien d'ailleurs. Comment dirais-je, nos relations avec Goldman ont commencé très vite à devenir plus compliquées. Et à preuve, là, je suis désolé, je suis obligé de me citer moi-même, mais j'ai publié... J'ai introduit un petit livre de Goldman qui s'appelait « Sciences humaines et philosophie » en français et qui a été traduit en polonais. Et ma préface était une descente en flammes. C'était d'ailleurs Andrzej Walizki a noté quelque part des idées de Goldman. Donc, oui, c'était un livre important. Au moment de sa parution, c'était 1957, je crois, ou quelque chose dans ces parages-là. C'est un livre important, mais je ne pense pas qu'on puisse exagérer l'influence de Goldman sur qui que ce soit d'entre nous. Je ne me souviens absolument pas d'avoir jamais parlé de Goldman avec Batchko. Il connaissait Goldman très bien personnellement, mais je n'ai pas l'impression que pour lui, à la différence de Kolakowski et de moi-même, la lecture du Dieu caché était tellement importante. Il y a eu aussi ces problèmes de Weltanschauung dans la tradition marxiste, indépendamment tout à fait de Diltai. Enfin, peut-être pas tout à fait indépendamment. Je pense à Lukács, en particulier à Georg Lukács, peu traduit en polonais parce qu'il sentait toujours un peu les souffres, mais qui avait un statut très compliqué. D'une part, quand nous étions étudiants, on nous a infligé une conférence de Lukács. Il n'était pas peut-être au mieux de sa forme à l'époque. Et il craignait de s'aventurer. C'était avant la mort de Staline. Donc, ou juste après, en tout cas, encore dans un climat extrêmement stalinien. Mais, en tout cas, nos aînés qui les lisaient, qui lisaient ces livres plus importants que cette malheureuse destruction de la raison qui est consternante, les jeunes Hegel, par exemple, sans parler de ceux qui connaissaient ces livres clandestins condamnés par l'international, mais il y en avait qui les connaissaient, c'est-à-dire l'histoire et conscience des classes, de 1920 et quelques, qui étaient condamnés, interdits, mais qui existaient dans au moins trois bibliothèques de Varsovie et qui avaient des lecteurs. Je n'en étais pas, je ne connaissais pas l'allemand à l'époque, je l'ai lu en français quand il est paru par les soins de Kostas Axelos chez Argument. ce qui est arrivé à Varsovie immédiatement après, donc on a pu les lire. Donc, ceci pour dire que je pense que cette histoire est un peu plus compliquée, que le rôle de Goldman n'est pas aussi important. Voilà.
Je crois qu'on va donner la parole à une dernière personne, et puis après, nous sommes obligés d'arrêter. Allez-y, madame.
Bonsoir. Donc dans votre présentation, on voit bien finalement une culture, enfin une société culturelle qui montre une capacité de résilience malgré la nécessité de composer avec un pouvoir qui résulte d'une contrainte étrangère. Ma question était, est-ce que dans cette histoire il y a eu aussi des traîtres, des dénonciateurs, des gens qui faisaient de la police politique avec conviction?
Écoutez, figurez-vous, nous avions des adversaires ou même des ennemis. Il y avait des gens qui nous détestaient et qui ne sont pas privés de les montrer à l'occasion. Je ne connais pas dans ces milieux des traîtres, ni des dénonciateurs. Je peux dire que dans les milieux dans lesquels j'ai circulé, il n'y en avait visiblement pas. Il se trouve. D'abord, je n'en ai jamais rencontré. Et ensuite, il se trouve qu'un historien qui est spécialiste de la période, et notamment justement de la dissidence, de l'opposition démocratique, etc., André Frischke, pour des raisons universitaires, a eu à se pencher sur mon cas. Et il m'a dit un jour, j'ai regardé tous les dossiers de la sécurité vous concernant, vous pouvez être tranquille, il n'y a pas une seule dénonciation. Bon. Donc il n'y en avait pas. C'est vrai, les dénonciateurs ne pullulaient pas dans les paysages, en tout cas dans ces parages-là.
Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier beaucoup, parce que je pense que notre entreprise d'encyclopédie sera grandement augmentée, enrichie par vos propos, et puis j'espère aussi toutes les personnes qui sont là et qui pourront aussi participer d'une manière ou d'une autre. Donc, merci beaucoup d'être venu.
Merci de cette occasion qui m'a été donnée de revisiter, comment dirais-je, les paysages intellectuels de ma jeunesse.
Voilà, merci à tous.